France en liberté. Une émission pour déménager la biologie. Voilà. La biologie s'occupe de nous, nous allons nous occuper de la biologie. Car en observant de plus près la vie des animaux qui nous accompagnent sur cette terre, certaines notions apparemment scientifiques paraissent incongrues. Il semble que l'on ait toujours cherché à tirer des énoncés normatifs à partir des descriptions de la nature. Et la science se confond avec une histoire beaucoup plus idéologique qu'on ne l'admet souvent. C'est ce dont nous allons parler entre 18h et 19h30 sur 89.4 Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste. Science en liberté, une émission animée depuis l'Anjou par Thierry Laudet, avec la complicité de Siona et de Monique à Paris. Je suis Thierry Laudet pour animer une émission où nous nous amusons à questionner la biologie pendant 1h30. Ravi de vous retrouver pour cette émission. Et aujourd'hui, l'EES, où faut-il faire évoluer l'évolution ? Bonne gens, notre émission Science en Liberté s'attache à la relation biologique qui nous relie au monde. Mais bien souvent, nous parlons ici de Darwin, du darwinisme ou du néo-darwinisme d'une manière très critique, soulignant les problèmes que cette théorie pose. Pour beaucoup de biologistes, notamment en France, il ne s'agirait que d'un malentendu, voire d'une mauvaise foi, en accordant qu'un crédit limité à un paradigme qui ferait consensus chez tous les scientifiques. Bien sûr, ceux qui ont lu le Manifeste pour une écologie évolutive savent au contraire que l'explication de la biodiversité peut se trouver dans bien d'autres théories alternatives, depuis que Lamarck a découvert le principe matériel de l'évolution biologique. Car ce qui pose problème dans le darwinisme ou dans le néo-darwinisme, c'est l'importance que la théorie met dans des mécanismes de concurrence d'eugénisme et surtout en plaçant le gène au centre de l'évolution. Il faut se rappeler que la science n'est pas une religion. Et que la question du consensus ne peut pas y figurer. La démarche scientifique est au contraire explicitement dépendante de la rupture épistémologique. Et quand Popper lui-même déclare que le darwinisme n'est pas une vraie théorie scientifique, car il n'est ni démontrable ni expérimentable, il faut peut-être un peu écouter. Et cependant, la biologie évolutive n'a jamais été aussi fructueuse de découvertes modernes qui en montrent le dynamisme. Pourtant, beaucoup de ces chercheurs modernes sont parfaitement conscients que ces questions et sont capables de remarquer le hiatus qui existe entre les propositions principales du dogme darwinien et leurs observations ou leurs expérimentations. Si l'évolution est toujours la seule explication biologique de la biodiversité, la sélection naturelle, elle, décrit de plus en plus mal nombre de petites choses que la recherche contemporaine a mises à jour. Aussi, ils sont de plus en plus nombreux les chercheurs qui appellent à se sortir de ce cadre trop étroit du néo-darwinisme, et notamment en proposant une nouvelle synthèse actuellement retenue sous le nom de Extended Evolutionary Synthesis, c'est-à-dire EES. Alors voilà la question d'aujourd'hui, faut-il faire évoluer l'évolution ? Il faut reconnaître que ce qu'on appelle la synthèse moderne ou néo-darwinisme a vu ses principales lignes être largement bousculée depuis qu'elle était constituée dans les années 60. Il a fallu modifier le gradualisme qui semblait impondérable, incorporer la dérive génétique, la dérive aléatoire, la spéciation sympatrique, la construction de niches, et même intégrer des éléments comme l'endosymbiose. Aujourd'hui, le néo-darwinisme, devenu la théorie moderne de l'évolution, associe bien des choses et leur contraire. Alors, cette idée de proposer une EES qui incorporerait ces phénomènes dans une vision globale a vu le jour. D'ailleurs, même ceux qui ne sont pas partisans de changer le cadre s'accordent désormais sur une définition théorique beaucoup plus lamarckienne que darwiniste, en affirmant juste que l'évolution est une simple modification de la fréquence des gènes au cours du temps, ne faisant donc plus référence à la sélection darwinienne. Que s'est-il passé ? Cette démarche prudente est-elle la bonne pour rendre compte du réel ? Ou bien faut-il suivre l'avis des réformateurs qui appellent de leur vœu la constitution d'une nouvelle synthèse ? L'EES par exemple. Comment faut-il penser l'évolution ? Bien plus fondamentale qu'il n'y paraît, cette modification de la théorie comprend beaucoup plus d'implications sociales, historiques et politiques que ce que ce débat un peu abstrait laisserait entendre. Une fois encore, nous allons présenter les termes de ce désaccord, en espérant vous donner la possibilité d'y réfléchir, et surtout de faire de la science en toute liberté, car vous êtes sur Radio Libertaire, et nous traitons aujourd'hui de la synthèse évolutive étendue, l'EES, qui tente de réunir dans un même paradigme toutes les découvertes les plus récentes de la biologie moléculaire et de l'écologie. C'était Grass and Beauty, un vieux ragtime de 1911 par James Scott.
Bonjour, nous revoilà sur 89.4 Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, où nous nous amusons à éplucher la biologie. Aujourd'hui, dans notre nouvelle émission de Science en Liberté, nous allons parler de l'appel à une nouvelle synthèse de l'évolution étendue à d'autres processus, l'Extended Evolutionary Synthesis, n'est-ce pas Thierry ? Nous voilà encore à flirter avec la critique du darwinisme, mais cette fois-ci, il s'agit d'un appel général que les biologistes ont mené. Faut-il faire évoluer l'évolution ?
En effet, Siona, on aime bien ça, nous flirter avec la critique du darwinisme. Alors, depuis le début des années 2010, un chercheur italien, Pigliucci, relayé par des chercheurs américains comme Lalande, ont lancé l'idée d'une contre-théorie synthétique de l'évolution. C'est ce qu'ils ont appelé la synthèse évolutive étendue, ou Extended Evolutionary Synthesis, EES en abrégé. La perspective de cette EES, c'est d'incorporer de nombreux processus non darwiniens qui ont été découverts récemment dans une nouvelle théorie synthétique de l'évolution.
Donc Thierry, il ne s'agit pas d'une critique morale d'un darwinisme comme avec le darwinisme social qui reprochait des dérives autoritaires à la théorie.
Oui, c'est ça. Il ne s'agit pas de critiques qui sont axées sur le plan moral, mais bien de critiques axées sur le terrain biologique. En effet, depuis que Lamarck, en 1801, a initié l'idée que les êtres vivants se transformaient et que l'évolution était la seule explication matérielle de la biologie, il y a eu de nombreuses critiques. Alors passons très vite sur la réaction du créationnisme qui s'est opposé à la vision matérialiste de Lamarck pour arriver maintenant au darwinisme. On sait que Darwin a développé toute sa théorie comme une critique de l'évolution lamarckienne. Il a donc été l'un des premiers critiques réformateurs de la théorie évolutive en proposant un mécanisme très célèbre, celui de la sélection naturelle. Le darwinisme est donc dès le départ un paradigme nouveau et un paradigme critique. La sélection naturelle est donc proposée contre les hypothèses de changement aléatoire de Lamarck en tant que modifications organiques orientées dans l'environnement. C'est ce que Queneau avait résumé par la formule célèbre « La sélection naturelle, c'est le hasard trié par la mort ».
Impressionnant, ma foi, et tout à fait vrai. Donc, depuis que Lamarck a développé l'idée d'une évolution, le processus de cette évolution a fait l'objet de critiques. Et c'est vrai qu'on dit souvent que Darwin avait raison tandis que Lamarck avait tort.
Et oui, c'est même ce que nous apprenons à l'école, bien qu'on puisse très largement discuter de l'intérêt de ce postulat. Toujours est-il qu'en proposant la concurrence de la lutte pour la vie comme fonctionnement de l'évolution, Darwin a supprimé toute l'idée d'un processus historique tel qu'il avait été développé par Lamarck. On sait que cette hypothèse du fonctionnement de l'évolution s'est aujourd'hui largement imposée, notamment au XXe siècle, principalement d'ailleurs à cause de sa simplicité apparente. Mais dès les débuts, il y a eu des critiques de tout ça. La génétique, par exemple, avait largement remis en cause le déterminisme darwinien, sans compter bien entendu tous les problèmes véhiculés par le discours idéologique associé à l'eugénisme. Du coup, on a toujours été obligé de clarifier la mécanique darwinienne en assurant qu'elle était bien scientifique.
Mais la génétique a fini par être incluse dans la théorie évolutive après tous les débats qu'elle a connus depuis Sageret, si je me rappelle bien, la dernière mission sur ce sujet.
Eh oui, en effet. Alors ce n'est pas la génétique quantitative initiée par Villemorin, Sageret et tous les autres qui semblent s'opposer au darwinisme. Mais c'est bien plutôt les débuts de la biologie moléculaire. Car les molécules suivent des modifications qui n'ont généralement rien de darwinienne. Mais en dépit de ces difficultés, on sait que des chercheurs comme Mayer, par exemple, vont construire la synthèse moderne, ce qu'ils ont appelé la synthèse moderne dans les années 60, ou encore théorie synthétique de l'évolution, celle qu'on qualifie de néo-darwiniste, puisqu'elle introduit l'association, on dit que c'est une synthèse, entre la sélection naturelle et la génétique. Du coup, le néo-darwinisme fournit un cadre très général à la biologie, qui affirme que toute l'évolution est due à l'accumulation de petits changements génétiques, triés par la sélection naturelle. L'hérédité fonctionnelle est retenue à travers la concurrence que se font les espèces.
Le néo-darwinisme, ou théorie synthétique de l'évolution, est alors devenu la base, le paradigme principal de la biologie.
Sa base, en effet. Mais dès les années 50, il y a eu des chercheurs comme Stebbins, par exemple, il a fallu admettre qu'il y avait existé des processus non darwiniens, bon, par exemple la polyploïdie ou encore les translocations de chromosomes, qui conduisent aussi à de nouvelles espèces qui peuvent aussi entraîner un isolement reproducteur et donc participer à la spéciation, à l'évolution, sans être pour cela des mécanismes concurrentiels.
Finalement, les exceptions qui sortent un petit peu de la norme.
Voilà. Alors, le néo-darwinisme a réussi à incorporer ces phénomènes qui sont souvent contradictoires avec la sélection naturelle, et cela dès le début, car si on se souvient que l'écriture de la synthèse s'est faite entre 49 et 63, il y a eu beaucoup d'autres exemples, beaucoup d'autres éléments. Stebbins, par exemple, dans les années 50, avait posé ce problème-là. Mais outre Stebbins, en 69, il a fallu aussi tenir compte d'un autre mécanisme qui a été découvert, c'était la dérive génétique aléatoire. La dérive génétique aléatoire provoque des modifications dans les fréquences génétiques, et cela sans faire intervenir la sélection naturelle. D'ailleurs, Mayer, jusqu'en 1901, avait refusé la dérive génétique ou la théorie des gènes neutres, bien que la plupart des chercheurs ont été obligés de finir par considérer que cette dérive aléatoire des gènes est l'un des phénomènes existants naturellement dans l'évolution. On peut d'ailleurs très difficilement en nier l'importance.
Pourtant, la génétique est bien présente et la théorie standard du néo-darwinisme est devenue totalement centrée sur le gène.
Alors il va falloir en effet clarifier les termes. On est donc dans le néo-darwinisme ou théorie synthétique de l'évolution qui petit à petit se transforme en une autre théorie qu'on appelle la théorie moderne et qu'on va ici appeler ici la théorie standard pour la différencier de celle qui est actuellement proposée, qui est l'étendue, enfin la théorie étendue ou EES. Alors sous l'effet des multiples découvertes de la biologie moléculaire, il a bien fallu rendre compte de l'importance des gènes. Donc les gènes sont évidemment importants, mais la technologie a aussi permis de survaloriser la génétique grâce à la fameuse théorie du code génétique. Ça, c'est une théorie. Les gènes, c'est une réalité biologique. La théorie du code génétique, c'est une théorie qui a été placée progressivement au cœur de l'évolution. D'ailleurs, il faudra faire une émission entière sur ce sujet. Mais pour résumer, des chercheurs comme Hamilton ou Dawkins récemment ont fini par imposer un néo-darwinisme étroitement autour du gène en faisant de l'évolution l'itinéraire d'un ADN porté par le progrès des procédures organiques de la reproduction. Le néo-darwinisme s'est ainsi recentré sur le gène et sur la théorie du code génétique comme fondement de l'évolution biologique. C'est le thème du gène égoïste dans lequel l'évolution est le résultat du succès de certains gènes au détriment des autres.
Oui, l'évolution, c'est le meilleur des gènes qui gagne dans cette lutte, non pas pour la vie, mais pour la diffusion, comme le dit Dawkins.
Voilà pourquoi le néo-darwinisme de Mayer a peu à peu glissé dans ce qu'on appelle pudiquement la théorie moderne, bien qu'elle garde tous les standards du néo-darwinisme. Avec le gène égoïste, la théorie comprend donc un paradigme principal qui explique l'évolution par le changement de fréquence des gènes sous l'effet de la sélection naturelle. Or, c'est justement ce cadre étroit que les chercheurs appellent à bouleverser en insistant sur l'existence de nombreux phénomènes qui ne s'expliquent pas par la sélection naturelle. En fait, de plus en plus d'éléments montrent très bien que la génétique, et notamment le code génétique, ne tient plus comme tel, notamment lorsqu'on a commencé à faire la démonstration de ce qu'était la discussion sur le génome humain dans les années 2004, on s'est bien rendu compte qu'avec 23 000 gènes, on ne pouvait pas expliquer à la fois l'humain et la paramécie ou le riz. Enfin bref, les choses paraissaient plus complexes. Alors la sélection naturelle montre un certain pouvoir explicatif, mais tous ces phénomènes nouveaux ont un pouvoir explicatif bien plus supérieur pour comprendre ce qu'est l'évolution biologique.
Mais cela a déjà été le cas avec la théorie des équilibres ponctués, qui signait que l'évolution n'était pas toujours graduelle.
Oui, parce qu'il faut se souvenir que le gradualisme a été posé d'entrée de jeu dans la théorie évolutive. Or, dès 1972, Ehrlich et Gould ont largement contredit l'un de ces dogmes centraux du darwinisme, celui de l'accumulation de petits changements graduels. Ils ont montré que les faunes pouvaient connaître des évolutions rapides, suivi de stase, et que ces équilibres, qu'ils ont donc appelés des équilibres ponctués, ne collaient pas du tout avec la théorie graduelle des changements génétiques. Pourtant, là encore, les équilibres ponctués ont été plus ou moins incorporés dans le darwinisme de la théorie moderne, en faisant l'hypothèse qu'il y avait finalement des taux de changement génétique qui pouvaient simplement varier, sans qu'on en clarifie nettement les raisons.
La théorie moderne est finalement donc un darwinisme déjà largement modifié.
Et en effet, Siona, un darwinisme largement modifié, un darwinisme critique. Cette théorie moderne reprend en quelque sorte toutes les bases du néo-darwinisme en enlevant tout ce qui gêne, notamment la sélection naturelle dont on ne parle presque plus, en ajoutant des éléments comme le hasard, comme la dérive génétique. Mais en outre, il y a de nombreuses découvertes encore plus récentes qui ont encore remis en cause toute l'unicité de cette fameuse synthèse. Par exemple, le rôle des ribosomes dans le transfert des peptides, ça a modifié une grande compréhension du rôle de l'ADN et notamment de ce qu'on appelait le code génétique. De même, la théorie de la construction des niches, qui est d'ailleurs très discutée parce qu'elle pose un problème, mais aussi les transferts horizontaux de gènes. Les transferts horizontaux de gènes, ce sont des gènes qui passent directement dans le corps d'un organisme sans passer par la reproduction. Et donc là encore, un mécanisme non darwinien. Bien sûr, les hybridations, qui bien qu'elles apparaissent un peu darwiniennes, ne devraient pas aboutir à la formation de nouvelles espèces, puisque les espèces sont censées avoir un ancêtre unique, et bien d'autres choses encore, qui vont souligner l'importance de tous ces événements non darwiniens. Depuis qu'on a mis en évidence la dérive génétique, ces événements se sont multipliés. Bref, la survie des plus aptes est actuellement largement battue en brèche et donne à la théorie biologique une coloration bien trop archaïque avec ce centrage sur la fitness pour que des chercheurs n'en demandent pas la modification. Et c'est tout cela qui a motivé l'appel à la construction d'une nouvelle synthèse qui inclurait enfin tous les thèmes ignorés dans la synthèse actuelle. C'était Rise, Rise par Rammstein qui a ouvert le Hellfest de 2016.
Retournons dans le voyage vers la synthèse biologique. Donc Thierry, nous avons vu que de nombreuses découvertes récentes, tant en biologie moléculaire qu'en écologie, tendent à ne plus se contenter du cadre de la sélection naturelle. Ces nouveautés, dont certaines datent des années 50, ont conduit des chercheurs à proposer une ES, c'est-à-dire une synthèse evolutionary extended, étendue. N'est-ce pas?
Eh oui, Siona, tout à fait, c'est dit avec l'accent en plus. Le néo-darwinisme, ou synthèse moderne, que Mayer avait donc proposé en 1963, sans trop tenir compte des critiques ou des travaux qui avaient été menés par d'autres chercheurs, semble en effet devenu un cadre trop étroit maintenant pour de nombreux chercheurs, et notamment à partir de l'appel de notre ami Pigliucci. La perspective que proposent ces chercheurs, c'est de ne plus placer la sélection naturelle, ni le gène, au centre de la théorie biologique de l'évolution. La perspective de l'EES serait d'étendre la théorie évolutive à toutes les nouvelles découvertes comme autant de processus supplémentaires dans l'évolution biologique. Mais voilà, ces nouvelles découvertes sont-elles suffisantes pour entraîner une totale révision de la théorie, ou bien faut-il simplement les inclure dans le cadre du néo-darwinisme? C'est une des questions que se posent de nombreux chercheurs qui affirment, qui répliquent, qu'il n'est pas utile de changer la théorie actuelle. Alors ils ont deux raisons principales pour dire que c'est pas la peine de changer la théorie, une théorie qui marche, pour ajouter des petites théories qui ne marcheraient pas d'après eux. D'abord, un, parce que les données qui modifieraient tout cela seraient trop marginales pour affecter les modalités principales de l'évolution, car ces modalités principales de l'évolution resteraient avant tout darwiniennes à travers la sélection naturelle. Deuxième critique qu'ils font, c'est qu'il n'est pas difficile d'incorporer d'autres épisodes à côté de la sélection naturelle, sans pour cela changer le fondement. Comme ce sont des épisodes sans beaucoup d'importance, il suffirait juste de les ajouter, de dire bah, « ça peut être aussi comme ça », puis point final. Ces chercheurs protestent donc contre les réformateurs, en insistant sur une réalité qui est très simple, le cadre actuel théorique n'a pas pu empêcher ces nouvelles découvertes, donc ça sert à rien de changer de cadre, puisque ce cadre permet très bien les nouvelles découvertes, et qu'en plus il fait consensus.
Oui, il est vrai que toutes les nouvelles découvertes ont été possibles. Et en plus, on nous dit toujours que le néo-darwinisme fait consensus.
En effet, ça veut dire que le problème, c'est que la question telle qu'elle est posée, elle est mal posée. Premièrement, il faut se rappeler que la connaissance scientifique est acquise comme un mécanisme dynamique entre des découvertes empiriques et une interprétation conceptuelle. C'est-à-dire qu'il doit toujours y avoir une relation entre la théorie qu'on énonce et la preuve. Les théories permettent d'expliquer des faits, ils ont donc un pouvoir interprétatif des théories, et les faits permettent de modifier les théories. Donc, l'idée que la science serait juste une accumulation de faits est totalement fausse. Et même si le néo-darwinisme actuel n'interdit pas les autres recherches, on comprend que son cadre théorique pourrait être bouleversé par les nouveaux faits. Deuxièmement, il est complètement faux de croire aussi en l'idée que la théorie scientifique est juste l'objet d'un consensus entre les chercheurs. Les croyances religieuses peuvent faire l'objet d'un consensus, voire même les stratégies politiques peuvent faire l'objet d'un consensus, car ce sont des convictions, et les convictions, les faits, les ébranlent pas. Même si, évidemment, la croyance religieuse est une large stupidité, on ne va pas demain réussir à ressusciter, ça, personne ne peut y croire, même n'importe quel, sans connaître la biologie, je pense que même un religieux n'y croit pas, mais comme la conviction dit qu'on va le faire, eh ben, on peut se dire, allez, après tout, on fait consensus, on va ressusciter. Dans la science, au contraire, il ne s'agit jamais de croire ou pas en une théorie scientifique, mais de la mettre à l'épreuve. Ainsi, quand l'interprétation scientifique fait l'objet d'un désaccord, c'est bien la théorie qui doit être interrogée. Ou si l'on préfère, il n'y a pas d'exception dans une théorie. L'exception, elle ne confirme pas la théorie, au contraire, elle la réfute. Il ne s'agit donc pas de revendiquer un accord consensuel, mais bien au contraire d'étudier, de voir de très près, comment des faits empiriques peuvent entrer dans une explication théorique, ou au contraire, comment ces faits empiriques réfutent l'explication théorique. Des interprétations divergentes ne peuvent pas être résolues en exigeant juste que les gens ils adhèrent les yeux fermés à un paradigme, parce que tous les autres le feraient. Ça, c'est pas de la science.
Et il faudrait donc savoir en quoi les découvertes qui sont exposées ne rentrent pas dans le cadre du néo-darwinisme. Alors, car si elles peuvent rentrer, ce n'est pas la peine d'inventer une nouvelle théorie.
C'est tout à fait ça, Siona. C'est même l'argument majeur du néo-darwinisme qui affirmait la nécessité d'une synthèse entre la génétique des populations et la biologie naturaliste. Car il ne faut pas oublier qu'à la base, le néo-darwinisme a d'abord été une théorie critique. Bien entendu, le néo-darwinisme n'aurait pas dû être différent des autres et voir ses concepts évoluer avec les nouvelles découvertes, c'est-à-dire être réfuté.
Oui, mais à la condition que ces nouvelles découvertes sortent du cadre théorique du néo-darwinisme.
Ben oui, t'as raison, c'est justement là le cœur du problème. Car le néo-darwinisme a proposé un cadre extraordinairement plastique, qui donne l'impression d'une mollesse intégrale et qui peut intégrer à peu près tout et son contraire du moment qu'on met l'adjectif darwinien. Hein. On le voit très bien quand on lit les textes. Or, le centre du néo-darwinisme reste une évolution principalement dépendante d'un processus majeur darwinien qu'on appelle la sélection naturelle. Et si on trouve des épisodes qui ne trouvent pas leur explication dans la sélection naturelle, ben, il faut bien admettre que la sélection naturelle n'est pas le cadre universel. Et donc, il faut obligatoirement obtenir un élargissement du cadre. C'est cela que demandent les tenants de l'EES. Ils demandent une théorie synthétique étendue.
Eh oui, bouger les choses, c'est pas toujours facile. Mais alors, y a-t-il vraiment des découvertes qui ne sont pas interprétables avec le sélectionnisme darwinien ?
Eh bien justement, oui. Il y a beaucoup, beaucoup de travaux qui montrent qu'il existe des événements évolutifs qui ne sont pas réductibles à la sélection naturelle. Alors que dans le même temps, on a très très peu de travaux qui s'avèrent prouver la sélection naturelle. Bon, par exemple, on constate bien qu'une pression de prédation répétée sur des individus peuvent changer la proportion d'individus qui possèdent certains caractères. Mais en général, c'est très 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 loin de faire apparaître des espèces nouvelles. Par exemple, dernièrement, il y a eu un exemple qui a été publié et qui paraissait comme une sorte de preuve de l'existence de la sélection naturelle par concurrence. Alors, il a été publié que l'arrivée d'un prédateur sur une île des Caraïbes aurait déclenché un changement dans les populations de lézards, dont les pattes seraient devenues plus grandes pour courir. Et donc, les lézards qui avaient des petites pattes seraient morts. Personne ne doute, heureusement, que l'effet répété d'un prédateur ou même de l'effet répété d'une reproduction va effectivement engendrer des différences. Mais ce travail qui est présenté comme une preuve de la sélection darwinienne en est très loin. Il n'y a aucun élément probant d'une concurrence entre des petites pattes et des longues pattes. Il n'y a aucune preuve que les lézards à longues pattes survivent mieux. Il n'y a aucune preuve que ces lézards à longues pattes se reproduisent vraiment mieux. Et il n'y a aucune preuve qu'ils sont une nouvelle espèce et que ça va faire émerger un isolement reproducteur. En outre, rien ne dit que ce caractère quantitatif soit bien mesuré. Par exemple, les humains ont grandi en moyenne depuis le Moyen-Âge comme résultat de la modification des conditions de vie. Mais il ne s'agit évidemment pas d'une preuve de la sélection naturelle.
Mais Thierry, tu disais que des découvertes récentes n'entraient pas dans le cadre théorique. Lesquelles ?
Alors, en effet, il ne suffit pas de dire que les découvertes s'expliquent mal par la théorie. On peut aussi découvrir que certaines ne s'expliquent pas du tout par la théorie. Et là, s'il y en a, il y en a beaucoup. En fait, il faut se rappeler que ni Lamarck ni Darwin ne connaissaient la biologie moléculaire. Ils ne connaissaient même pas les bactéries, par exemple. Déjà, dans les années 20, un chercheur français, Potier, avait proposé l'endosymbiose comme un mécanisme évolutif. Et l'endosymbiose, c'est totalement non-darwinien. Cette idée a depuis été confirmée, on le sait, par exemple que les mitochondries de la respiration cellulaire ou les chloroplastes de la biosynthèse végétale sont issus d'une endosymbiose, c'est-à-dire d'une symbiose entre des organismes probablement bactériens et des cellules à noyaux. Ici, pas de concurrence, mais un mécanisme d'association. En fait, les symbioses, les endosymbioses, les associations sont quasiment partout dans la nature, sans qu'on connaisse le processus d'attraction et de répulsion qui conduisent à cet ensemble-là. Dans les années 40, on a aussi proposé que la formation des organismes pluricellulaires aurait impliqué des interactions associatives entre les cellules, grâce par exemple à la présence du collagène. On sait également que la biologie évolutive du développement a montré que des gènes ne s'exprimaient pas d'une même manière chez toutes les espèces, pouvant occasionner des transformations importantes. Enfin, il y a la fameuse dérive aléatoire génétique, qui est aussi un mécanisme non darwinien, ce qui a permis à Moto Kimura d'argumenter sur la théorie neutraliste de l'évolution, dans laquelle les génomes se modifient sous le simple effet du hasard. Là encore, pas de sélection naturelle et pourtant de l'évolution.
Oui, il y a en plus des théories catastrophiques qui nous expliquent la fin des dinosaures. Et là encore, pas de sélection naturelle.
En effet, s'il y en a, alors même si elles sont plus ou moins critiquées, Alvarez a parfaitement démontré que des catastrophes naturelles, lui il parle de sa comète, c'est ce qui compte le plus pour lui, mais on peut parler des trappes du Deccan ou du volcanisme, pourraient parfaitement induire d'importants changements évolutifs, comme la disparition entière d'un paquet d'espèces, d'un grand groupe d'espèces. Et cependant, cela sans un événement autre qu'un événement aléatoire et catastrophique. Alors le darwinisme a réussi à intégrer tous ces événements, y compris la théorie des équilibres ponctués, grâce à une astuce particulière. Elle a distingué une micro-évolution qui serait darwinienne et une macro-évolution dans laquelle ce serait que des phénomènes de hasard et on mettrait tout là-dedans dans un grand ensemble tout à fait particulier.
Yellow, court la fin. forêt, cheveux défaits. Oh, a yellow, une dame blanche dans le marais. Oh, a yellow, des ailes poussent dans ton dos. Oh, elle est loup, la peau des pieds devenue fou. Oh, et dans l'eau, comme un reflet d'Amaïello, j'ai les elfes et les fées, les lutins à mes pieds, j'attirerai. Oh, Isabeau, pour toi la dame au long manteau. Depuis ce temps, dans le marais y'a un étang. Oh, j'ai brillant comme le couteau de Damaïello.
Castellémis nous interprétait « Aïello ». Nous revoilà sur 89.4, une radio associative pas comme les autres, Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste sans maître, sans dieu et sans publicité. Dans une émission pour vous, les aventuriers de l'esprit, science en liberté, tous les seconds lundis de chaque mois. Donc on a vu, Thierry, que l'idée qu'il existait un consensus n'a aucune validité scientifique. Mais pourquoi les néo-darwiniens sont-ils si réticents à la synthèse évolutive étendue? C'est-à-dire à changer de base de paradigme.
Alors c'est un problème intéressant en effet, parce que la résistance du néo-darwinisme à l'élaboration d'une nouvelle synthèse étendue, c'est lié à une chose toute simple. Il faut se rappeler comment la théorie darwinienne s'est construite. La théorie darwinienne s'est construite contre Lamarck. Et généralement, c'est en dénigrant les idées développées par Lamarck, ou même en les falsifiant, par exemple pour l'histoire de la girafe, on en a déjà parlé ici, que Darwin s'est construit contre Lamarck. Toutes les théories scientifiques le font toujours, c'est-à-dire qu'on passe toujours d'une théorie à une autre, et on les critique comme cela, c'est par la critique, par la modification de la théorie qu'on peut faire quelque chose. L'innovation de Darwin dans la théorie évolutive a donc précisément été de développer la théorie de la sélection naturelle contre le lamarckisme qui lui faisait de la théorie du changement au cours des temps son élément majeur. Et Darwin a précisément développé la théorie de la sélection naturelle qui favorisait l'idée d'un progrès évolutif, ce qui collait très bien avec les années de son temps, avec le 19e siècle, puisque l'évolution serait en quelque sorte toujours une amélioration organique qui va faciliter l'adaptation des organismes à l'environnement. Pour que l'évolution favorise les meilleurs dans la lutte pour la vie et qu'elle soit le résultat d'adaptation, il était donc nécessaire que Lamarck ait eu tort. Or, beaucoup des nouvelles découvertes nous montrent qu'il y a des mécanismes qui sont apparemment beaucoup plus lamarckiens que darwiniens.
En quoi ce sont des mécanismes lamarckiens ?
Alors, ce sont des mécanismes, des découvertes récentes qui nous montrent que ces processus sont dans un premier temps non darwiniens. Ces processus non darwiniens vont exister en soulignant l'importance d'événements aléatoires catastrophiques, ou encore des épisodes qui vont être à vitesse variable. Mais il y a des processus qu'on va carrément appeler lamarckiens. Pourquoi ? Eh bien, on considère comme lamarckiens des modifications héréditaires induite directement par l'effet de l'environnement. C'est cette fameuse hérédité des caractères acquis. Alors évidemment, ce ne sont plus des événements acquis par un élément direct, par un effet direct, mais souvent par des effets indirects. Tous les biologistes du 19e siècle, y compris Darwin, croyaient en l'hérédité des caractères acquis. C'est pour ça que ça n'avait pas été critiqué avant la mise en place du darwinisme. Mais cette thèse a ensuite été réfutée par les premiers darwinistes pour essayer de bien démontrer que le darwinisme était complètement différent du lamarckisme. En fait, c'était pour asseoir définitivement la théorie contre Lamarck. Or, une hérédité directe des acquis n'a jamais pu être prouvée. En revanche, on a découvert depuis maintenant pas mal de temps de nombreux événements évolutifs qui montrent une influence directe de l'environnement sur les organismes mêmes et sur leur hérédité.
Et donc, ces nouvelles découvertes remettent forcément en cause le darwinisme. Mais qu'est-ce qu'il y a de lamarckien dans l'évolution ?
Eh bien déjà, pour prendre uniquement ce que les auteurs anglo-saxons à la mode ont dit, on va revenir sur quelqu'un comme Goldschmidt. Goldschmidt, dans sa théorie des monstres prometteurs, révélait que de toutes petites modifications pouvaient entraîner de grands événements. On sait maintenant l'importance des gènes architectes, des gènes Hox, dans la constitution de morphologies très différentes. Gavin de Berne avait aussi insisté sur le rôle prédominant des hétérochronies de développement, c'est-à-dire de la modification des vitesses de développement morphologique, bien que ce soit à partir des mêmes gènes. Enfin, dans les années 80, la découverte des homéodomaines a permis de voir que certaines séquences d'expression génétique étaient contrôlées par des protéines très stables au cours de l'évolution. Ce sont les fameux matchbox des végétaux, des gènes ou encore des gènes Hox par exemple. C'est aussi ce qu'on appelle les gènes homéotiques. Et puis, il y a aussi eu Conrad Waddington. Alors Conrad Waddington a développé l'idée de ce qu'il a appelé des paysages épigénétiques, c'est-à-dire des parcours de développement différents selon des systèmes épigénétiques. De même, le processus d'assimilation génétique développé par Waddington montre qu'un facteur de l'environnement peut induire des caractéristiques particulières et différentes qui, après quelques générations, vont se trouver encodées dans le génome. Elles deviennent donc petit à petit indépendantes de l'influence environnementale et pourtant elles ont été générées par cette influence environnementale. Waddington insistait sur le fait que ce processus n'était pas lamarckien. Mais comme il n'est pas non plus darwinien, il va bien falloir lui trouver un nom à un élément particulier. En fait, c'est très proche de ce qu'on appelle des mécanismes lamarckiens, c'est-à-dire des mécanismes directement influencés par l'environnement. Le stress environnemental agit sur des protéines chaperons qui, normalement, limitent la variation génétique. Là, c'est l'inverse. Les protéines chaperons vont pouvoir, au contraire, s'ouvrir sur d'autres éléments. On a une assimilation génétique de Waddington qui a eu beaucoup de mal à s'imposer, et pourtant, elle est exactement celle qui a permis de faire apparaître ce qu'on a appelé la plasticité phénotypique. En fait, la théorie d'assimilation génétique, c'est le pendant théorique de la plasticité phénotypique découvert directement dans les organismes. Et cette plasticité phénotypique, elle est directement liée à l'hétérogénéité de l'environnement. Sans hétérogénéité de l'environnement, pas d'expression complexe et donc pas cette hétérogénéité de l'expression génétique. On voit à la fois qu'ici l'évolution agit sur l'expression des gènes et pas sur les gènes eux-mêmes. Par exemple, chez les têtards de grenouille verte, il existe une grande plasticité dans le développement phénotypique et il peut y avoir
des formes différentes,
voilà,
en fait.
Des têtards qui vont vivre tout l'hiver sous des formes géantes, d'autres qui vont vivre avec des couleurs différentes, etc. C'est ce qu'on appelle la plasticité phénotypique. Et puis, ça va même encore plus loin, parce qu'il peut y avoir des réécritures de l'ADN sous l'effet de l'environnement. Et cela contredisait complètement le dogme fondamental de la théorie biologique. Du coup, d'autres auteurs ont été beaucoup plus virulents, comme par exemple Eugène Conin, qui a découvert des systèmes. Il s'agit d'une sorte de mémoire moléculaire que les bactéries utilisent pour se défendre contre les virus en incorporant directement une part du génome des virus. Ça, notre ami Conin l'a tout de suite dit, Conin l'a immédiatement dit, il s'agit d'un lamarckisme. Car cette mémoire est l'intégration de données virales, et donc Conin a affirmé que c'était des mécanismes lamarckiens qui existaient dans l'évolution, et que même la théorie synthétique de l'évolution était désormais caduque. C'est lui qui dit ça, c'est caduque, la théorie de l'évolution actuelle ne tient pas la route, il faut revenir sur tous ces éléments-là. Et puis on a aussi découvert les fameux transferts horizontaux de gènes, qui là encore s'apparentent bien plus à des mécanismes lamarckiens que darwiniens, puisque c'est l'environnement et les circonstances qui vont favoriser qu'une espèce puisse voler des gènes à une autre. On a affaire à des kleptomanies de gènes. En effet, les gènes peuvent être directement modifiés dans un organisme sous l'effet d'un autre organisme, ou encore donc des espèces peuvent incorporer dans leur génome des séquences génétiques d'une autre espèce. Autant dire que la fameuse hypothèse d'une sélection naturelle liée à la concurrence entre espèces est ici largement battue en brèche.
Par conséquent, il y aurait tout lieu de parler d'une synthèse pour l'évolution lamarckienne, plutôt que de seulement étendre la théorie.
Alors, c'est pas tout à fait ça. Grossièrement, il faut établir plusieurs catégories de processus évolutifs qui vont gouverner la formation d'espèces nouvelles. Car n'oublions pas, la théorie de l'évolution cherche à comprendre comment des espèces nouvelles peuvent émerger, comment peuvent apparaître. C'est-à-dire que l'évolution explique la biodiversité, elle explique la diversité
oui,
des espèces.
Oui, ça, on ne le remet pas en cause.
Non, ce n'est pas du tout remis en cause. Il y a bien une évolution qui fait apparaître des nouvelles espèces. La vraie question, c'est par quel processus ? Alors, Darwin nous disait que c'était la sélection naturelle. On voit maintenant qu'il y a trois types de catégories, trois types de processus qui semblent gouverner cette spéciation. D'abord, il existe des événements catastrophiques. Alors, ces événements catastrophiques sont bien entendu complètement liés au hasard, sont liés par exemple à des altérations du soleil, ou à des mouvements de la lune, ou encore à des mouvements du pôle magnétique. Et tous ces événements-là, ou même l'arrivée d'une comète, hein, comme nous le disait Alvarez, tous ces éléments-là vont complètement modifier les faunes et les flores, c'est-à-dire qu'ils vont occasionner des ruptures dans les rythmes évolutifs. C'est dans ce groupe d'événements qu'il faut placer des phénomènes comme les catastrophes naturelles, les équilibres ponctués, ou même à un plus petit niveau, des changements engendrés par exemple par la dérive génétique ou par les effets fondateurs. Nous sommes là à des événements qui sont plus ou moins catastrophiques. Un effet fondateur, c'est un groupe d'animaux qui part d'une population pour aller s'installer dans un autre endroit, et donc qui ne transporte avec lui qu'une partie des gènes de la population d'origine. Le deuxième groupe d'épisodes évolutifs est davantage dépendant de l'environnement. Là, c'est l'environnement qui va agir, qui va avoir un effet sur cela. Dans ce terme d'environnement, il faut comprendre aussi la présence des autres espèces. Que ce soit des parasites, que ce soit d'autres plantes, ces autres espèces peuvent susciter un changement de génome ou permettre d'intégrer des gènes d'autres espèces. Alors, c'est le cas, par exemple, du travail que Conin a mis en œuvre sur les bactéries, mais c'est aussi le cas des transferts horizontaux de gènes, de la plasticité phénotypique, ou même, bien entendu, d'autres éléments comme les mécanismes de développement, ou alors, à l'échelle de l'organisme, des endosymbioses, comme par exemple l'intégration des mitochondries dans la cellule, ou l'intégration de toutes sortes d'autres événements à l'intérieur des corps ou à l'intérieur des cellules. On sait par exemple aussi que nos organes se sont formés par association. Alors, tous ces éléments-là sont des événements évolutifs qui sont directement dépendants de facteurs de l'environnement qui les ont poussés. Enfin, le troisième groupe d'événements ressent ces effets particuliers d'interactions très précises entre des organismes. Par exemple, dans le cadre d'une théorie qu'on appelle le déplacement de caractère, où là, des espèces vont pouvoir faire émerger des caractères nouveaux sous l'influence d'une autre espèce, sous l'influence parfois indirecte. C'est encore le cas de la construction de niches, même si cette théorie est actuellement beaucoup discutée, ou encore bien sûr de la spéciation sympatrique, dont maintenant on a tout un ensemble de preuves. Et puis il y a beaucoup d'autres modifications qui sont tout simplement induites par les choix sexuels, comme l'hybridation, les préférences sexuelles répétées par les partenaires. Il ne faut pas oublier que même Darwin ne pouvait pas se mettre de la sélection naturelle partout et qu'il a été obligé lui-même de reconnaître qu'il y avait un autre type qu'il a appelé aussi de sélection, la fameuse sélection sexuelle, c'est-à-dire les choix répétés des partenaires, où là, en fait, on choisit simplement les uns les autres et du coup, ce n'est plus un mécanisme matérialiste hasardeux, c'est bien un mécanisme de fait de choix des individus particuliers.
Du coup, la sélection naturelle devient une hypothèse beaucoup moins importante au sein de ces processus.
Oui, l'ensemble de ces processus pose un problème. Alors, bien que nombre de biologistes continuent de voir un mécanisme interactif, la théorie nouvelle intégrerait toutes ces découvertes. Alors, toutes ces découvertes nouvelles, par exemple la fameuse EES, la fameuse Extended Evolutionary Theory qui est proposée actuellement, serait complètement décentrée du darwinisme. On n'y mettrait pas le darwinisme au centre, mais ça serait un ensemble dans lequel le darwinisme serait qu'une des parties d'explication. On voit donc qu'il n'est pas du tout neutre de proposer une extension de la synthèse à toutes ces découvertes nouvelles qui vont donner à des mécanismes non darwiniens une importance qui va devenir de plus en plus majeure puisqu'ils sont plus importants. C'est pourquoi le néo-darwinisme actuel préférerait sans nul doute qu'on ne change rien de la synthèse et qu'on ne fasse qu'incorporer ces autres mécanismes comme autant d'exceptions. La théorie deviendrait ainsi, l'évolution consiste dans des modifications génétiques orientées par la sélection naturelle, mais aussi par tout un ensemble d'autres mécanismes totalement différents.
Je comprends que ce compromis ne soit pas totalement satisfaisant, mais en même temps, qu'est-ce qu'il y a dans le darwinisme qui empêcherait finalement d'y faire figurer toute une série d'exceptions ? Cela permettrait presque de mettre tout le monde d'accord ?
Enfin non, Parce que si les réformateurs de l'ES, pour eux, le darwinisme est un cadre trop étroit, c'est justement parce qu'il sépare l'évolution des grands groupes d'espèces dans une macroévolution, qui serait liée au hasard, et des petits changements héréditaires dans une microévolution. En quelque sorte, la macroévolution serait due à des épisodes aléatoires, comme les catastrophes naturelles, tandis que la microévolution constituerait toujours, dans l'accumulation graduelle de petites modifications organiques avantageuses, selon le principe répété de la lutte pour la vie darwinienne. Et ces deux catégories d'événements se trouvent ainsi complètement séparées. Or, les tenants de l'EES affirment au contraire qu'il faut élaborer une nouvelle synthèse qui permette de bien comprendre la relation qui existe entre toutes ces modifications micro-évolutives et ces changements macro-évolutifs. Et c'est pourquoi ces mécanismes comme ceux de la construction de niches, ou même, on va le voir, de la sexualité, sont souvent soulignés, car ils sont au cœur de cette relation qui établirait enfin une continuité entre macro- et micro-évolution. Bref, nous serions enfin arrivés à une idée beaucoup plus pertinente de l'ensemble des mécanismes évolutifs et ils redeviendraient surtout des mécanismes historiques.
A man I know is falling for me. A man I know is acting like a fool. While I remain as cool as ice. This man I know keeps calling for me. This man I know is acting far too grand. Why can't he understand? He's throwing losing dice. Such trying times, such trying times. Why do we live in such exasperating times? Such trying times, such trying times. If only we could find the reason for the rhymes. This man I knew has given it up. This man I knew has waited far too long and suddenly been strong enough to break the tie. This man I knew is living it up. This man I knew has buried all his past and found true love at last. But where the deuce am I? Such trying times. Such trying times, why do we live in such exasperating times? Such trying times, if only we could find the reason for the rhymes. Such trying times. Why do we live in such exasperating times? Such trying times. Such trying times. If only we could find the reason for the rhymes. Why do we live in such exasperating times?
C'était Marlène Dietrich qui nous parlait de ces temps difficiles, such trying time.
Pour les auditrices et auditeurs qui nous rejoignent, nous sommes actuellement en train de réfléchir sur la proposition carrément d'étendre la théorie de l'évolution, mais comme déjà certains chercheurs l'ont fait. Et on y ont pensé. Bien évidemment, je rappelle, sans remettre la théorie de l'évolution en cause. C'est important de voir le cadre. Mais il y a un autre argument qu'utilisent les néo-darwinistes pour refuser la construction d'une théorie étendue. C'est finalement l'idée qu'attaquer le darwinisme, c'est déjà attaquer l'évolution et faire la part belle au créationnisme et aux autres obscurantistes, n'est-ce pas, Thierry ?
En effet, Siona. On sait que depuis Lamarck, les obscurantistes de toutes les religions ont toujours cherché à minimiser l'importance de l'évolution biologique. D'abord parce qu'évidemment, c'était une idée révolutionnaire. Il ne faut pas oublier que Lamarck a fait ça en plein cœur de la Révolution française. Et ensuite, évidemment, parce que ça détruit en grande partie les hypothèses d'une adhésion à des principes divins. L'objectif des créationnistes, c'est d'abord de défendre leur conception d'une création du monde par Yahvé, Allah, Dieu, c'est-à-dire en fait une entité supérieure aux humains à laquelle il faudrait qu'on soit soumis, voire même affirmer qu'il y a un esprit diffus qui serait à l'origine de l'univers et favoriserait la métempsychose, la réincarnation et toutes ces fadaises. Il s'agit bien entendu d'une magie miraculeuse qui réduit nos angoisses d'être vivants.
Voilà, et qui rassure peut-être l'humain de je ne sais quoi.
Oui, encore que franchement, il faut être assez bizarre pour croire en ces choses-là. C'est oui. Absolument impossible de croire en une religion, et moi je mets au défi n'importe quel religieux de me dire qu'il croit vraiment qu'il va un jour sortir sa chair à nouveau et se réincarner. Mais le second objectif des obscurantistes, c'est surtout de prescrire et d'exiger que les humains suivent toute une série de conduites ou toute une série de règles morales qui vont favoriser la soumission sociale. Et ça, c'est vraiment le point le plus important. Et pour cela, les obscurantistes demandent l'avènement d'une dictature, ou en tout cas d'une société patriarcale et autoritaire, mais il est faux de penser que le darwinisme constituerait un rempart scientifique à cet obscurantisme. Bien au contraire, le néo-darwinisme, comme il fut une théorie très eugéniste et autoritaire, ne peut pas empêcher l'apparition d'une théorie autoritaire et eugéniste. De plus, il n'y a en aucun cas, dans l'objectif de la science, ça peut être de l'ordre de prescrire des comportements, donc l'objectif de la science n'est pas prescriptif.
Oui, mais il est vrai que le darwinisme semble fâcher les obscurantistes.
Non, Siona, c'est le fait évolutif qui contredit le concept de création.
Ah, d'accord.
C'est-à-dire que les créationnistes sont tout à fait, les obscurantistes sont contre l'évolution, car cette évolution a été évidemment à gêne leur propre théorie, leurs propres explications magiques du monde. Mais l'évolution reste un fait, parfaitement mis en évidence depuis Lamarck. En revanche, ce sont toutes les failles de la théorie explicative qui permet aux obscurantistes de s'engouffrer dans la brèche. Donc plus il y a des éléments qui ne sont pas darwiniens et dont on se rend compte, plus ça leur permet de dire « bah voyez, vous avez tort, Darwin avait tort ». Et donc d'en tirer comme conclusion que l'évolution serait fausse, ce qui est évidemment stupide, puisque Darwin n'a jamais fait que un argument supplémentaire sur l'évolution. L'aspect téléologique d'une évolution qui serait vue comme un progrès est totalement incorrect. Mais là encore, le néo-darwinisme la privilégie, cette explication-là. De même que l'hypothèse d'une essence des êtres vivants, l'essentialisme d'une nature humaine, c'est totalement faux. Mais là encore, la génétique est très proche de l'inspirer. Donc il existe ainsi des biais cognitifs qui peuvent rendre difficile la compréhension de l'évolution, même avec le darwinisme. Par conséquent, il me paraît utile de travailler sur tout cela et surtout arrêter de s'arc-bouter un néo-darwinisme qui craque de partout et ou d'établir des sortes de résistances prudentes contre les aspects innovants des recherches scientifiques. Au contraire, il faudrait reconnaître la richesse du projet qui conduit à établir un cadre plus robuste, ce qui permettra de mieux expliquer l'histoire évolutive des êtres vivants.
Et en plus, Thierry, il semble que les réformateurs de l'ES veulent redéfinir la base génétique de la théorie évolutionniste en affirmant qu'il y a alors besoin d'une refonte significative de la synthèse.
Oui, Siona. Il existe chez tous les opposants, chez tous ces réformateurs, une volonté de mettre en évidence l'importance des mécanismes extra-génétiques qui pourraient participer à la conduite de l'évolution. Il est clair que pour le moment, nous ignorons les modalités précises de nombre de mécanismes qui gouvernent la spéciation, la formation des espèces. Et il serait aussi tout aussi hasardeux de réfuter l'importance de la génétique que de réfuter l'intérêt des mécanismes extra-génétiques. On le voit, c'est plutôt de notre côté que se trouve la prudence. Par exemple, dans le phénomène d'assimilation génétique défini par Waddington, on sait que des mécanismes extra-génétiques peuvent conduire à des changements qui seront, eux, héréditaires. De la même manière, une meilleure compréhension de la plasticité phénotypique pourrait permettre de développer des hypothèses beaucoup plus riches.
Parmi tous ces problèmes, on retrouve la question récurrente de la théorie de la construction de niche qui paraît démontrer l'exigence de modifier la théorie.
En effet, tout le fondement du néo-darwinisme, Siona, repose sur l'idée de la concurrence. Bien qu'au départ elle ne soit pas une théorie écologique, la sélection naturelle affirme que chaque espèce dispose de sa propre niche et que toute variation morphologique obligerait à une concurrence qui permettrait au meilleur de l'emporter. Par exemple, pour reprendre le travail mené sur les phalènes du bouleau, le petit papillon, le morphe noir ne s'impose que lorsque sa niche écologique, c'est-à-dire les bouleaux, sont noircis par la suie. Et donc cette niche écologique l'emporte sur la niche qui permettrait la survie du morphe blanc. C'est l'explication traditionnelle qu'on donne aux enfants. Les niches écologiques sont donc forcément saturées, et l'environnement est vu comme un filtre passif de toutes ces innovations morphologiques. Dire que l'animal est adapté, selon le darwinisme, c'est dire qu'il a subi une sélection pour une niche précise. Alors ce ne sont pas des concepts très précis, mais évidemment on a vite pu se rendre compte d'une part que les niches biologiques n'étaient pas saturées, et deuxièmement, quels étaient des phénomènes dynamiques susceptibles d'être modifiés, y compris par l'espèce qui l'occupe.
Mais quelle est cette théorie de la construction de niches ?
Alors Siona, ce concept n'est pas intégré dans la synthèse moderne, qui ne tient compte que de l'héritage génétique. La construction de niches propose au contraire que certaines adaptations soient directement transmises d'une espèce à sa descendance. Il s'agit d'un processus qui conduit un organisme à modifier volontairement son milieu et ses activités. On connaît le rôle des espèces ingénieures, par exemple, comme l'éléphant. Il est capable volontairement de fabriquer des prairies en abattant des arbres, mais il va donc influencer la reproduction des herbivores, puisqu'il favorise des prairies. Alors on voit que tous ces éléments s'imbriquent. Il ne s'agit pas nécessairement de niches, mais de modifications des niches. Et ça a des conséquences à des niveaux très importants. Donc c'est pas intentionnel, mais ça peut fonctionner. Les vers de terre, par exemple, sans intention de le faire, influencent directement la reproduction des plantes. Et le savoir-faire des espèces peut être transmis. On retrouve ici une des idées forces de Lamarck, qui insistait sur les changements et les habitudes des animaux face aux circonstances de l'environnement. L'héritage écologique ne dépend donc pas que des gènes, mais il peut persister. Ce concept est assez proche de l'héritage culturel, par exemple chez les humains. On sait qu'on peut hériter de tout un savoir-faire qui nous vient, non pas des gènes, mais de nos propres parents ou grands-parents. Et ça va beaucoup plus loin, puisque ça peut participer à une conception alter-darwinienne de l'évolution, celle qu'on appelle l'écologie évolutive. Pourtant, la construction de niches, si elle est assez évidente dans la nature, elle n'est pas encore élevée au rang de théorie, et elle reste considérée comme un épiphénomène par la plupart des néo-darwiniens. Le débat reste donc très très vif entre les réformateurs de l'ES qui sont partisans d'inclure toutes les modalités extra-génétiques et les néo-darwinistes qui les considèrent encore comme des phénomènes tout à fait marginaux.
Oui, c'est aussi le cas pour la spéciation Saint-Patrick ou la formation d'espèces nouvelles sans barrière à la reproduction.
En effet, Siona, le néo-darwinisme exige que l'émergence d'une espèce nouvelle se fasse à travers un paradigme dit de vicariance. C'est-à-dire que quelque chose doit isoler deux groupes au sein de l'espèce ancestrale. Cette chose doit créer une barrière géographique qui va isoler génétiquement les deux groupes qui en vont donc rompre le flux de gènes entre ces deux groupes. Ernst Mayr et nombre de chercheurs, après lui, ont toujours considéré que cette formation d'espèces ou spéciation allopatrique par vicariance était la seule possible, encore par effet fondateur, car il fallait qu'il y ait un obstacle qui altère le flux de gènes au sein d'une espèce pour former enfin deux espèces distinctes.
Mais cela semble logique. Pour qu'une espèce émerge, il faut bien qu'elle soit isolée d'une autre.
Alors ça paraît logique, mais d'une part, il n'a jamais été prouvé qu'une barrière géographique soit suffisante pour isoler des populations et que ça permette de former une espèce nouvelle. On peut prendre l'exemple des loups. Alors les loups, ce sont des espèces bien connues. Ils vivent en Italie, ils sont gris, ils vivent dans les petits villages, ils sont capables de manger toute une série de proies, et ils sont très différents.
Ils ne vivent pas que dans les petits villages.
Ils vivent dans les campagnes autour des petits villages, je veux dire, excusez-moi. Et ils sont très différents des loups canadiens. Ils sont d'ailleurs séparés des loups canadiens qui vivent dans la toundra, capables de chasser des rennes, ou dans ceux qui vivent dans la taïga, qui sont capables de chasser des élans ou des rennes, ou d'autres ongulés. Et ils sont séparés depuis très longtemps entre le Canada et l'Italie. Pourtant, un loup canadien est parfaitement reproductivement capable de vivre avec un loup italien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de reproduction, d'isolation reproductive. Et pourtant, ça dure depuis des générations et des générations. Ça fait des millénaires que ces loups sont séparés. Donc on voit que des espèces peuvent être séparées depuis des millénaires, connaître un très faible flux de gènes, et pourtant ne pas devenir des espèces différentes. D'autre part, il a été au contraire prouvé que des groupes d'une même espèce pouvaient parfaitement diverger génétiquement tout en vivant ensemble. C'est le cas par exemple des putois.
Que tu as beaucoup étudié, voilà. Effectivement, putois,
ou même les chrysopes,
mustélidés.
Les chrysopes que j'ai aussi étudiés. Là encore, on a affaire à des espèces qui sont capables de se différencier écologiquement, alors que pourtant elles sont ensemble et pourraient parfaitement connaître un flux de gènes régulier. Cette spéciation est donc une spéciation Saint-Patrick. Alors ça n'a pas été montré que par moi. Il y a beaucoup de chercheurs qui ont pu le montrer, notamment chez les poissons qui vivent à l'intérieur d'un même lac. Bon, par exemple, dans le lac Nicaragua, on sait qu'à partir d'une souche ancestrale, il y a eu plusieurs espèces qui ont évolué et qui se sont donc différenciées alors qu'elles étaient ensemble. En fait, ici, on voit que ce sont principalement à travers des choix sexuels que vont petit à petit dériver des événements qui vont s'avérer déterminants. On peut donc davantage voir la spéciation, c'est-à-dire l'émergence des espèces nouvelles comme un gradient depuis des populations qui vont vivre totalement ensemble, le cas de mes chrysopes ou des putois ou des poissons du lac, jusqu'à des populations totalement séparées géographiquement. Car évidemment, plus qu'une barrière à des flux génétiques, c'est probablement la distance et l'isolement qui pourront ici jouer. Mais il faut quand même du temps pour que les stratégies de reproduction puissent se transformer au point que les deux espèces deviennent des espèces nouvelles, c'est-à-dire isolées reproductivement. Or, ce sont ces stratégies de reproduction qui sont essentielles, absolument essentielles, à la formation d'espèces nouvelles.
En ce temps-là, nos fleurs rendaient leur viande aux chiens et nous habitions tous de sordides tripots. Avec des aiguillages pour nos petits matins, quand le beau macadam nous traitait de salauds, nous traitait de salauds. Nous vivions nos vertiges dans des vibrations folles et gerbions nos enzymes en nous gueulant moteur. Mais entre deux voyages, entre deux verres d'alcool, nous n'avions pas le temps de décompter nos heures. De décompter nos heures. Nous étions les danseurs d'un monde à l'agonie, en même temps que fantômes conscients d'être mort-nés. Nous étions fossoyeurs d'un monde à l'agonie. Dans les shops interdits, dans les musiques blêmes, dans les sombres parfums, dans les dédales obscurs où plane la folie. Où plane la folie. Et nous avions des gueules à briser les miroirs, à ne montrer nos yeux que dans le contre-jour. Mais entre deux délires, entre idées noires, nous étions les plus beaux, nous vivions à rebours. Nous vivions à rebours. Nous étions les danseurs d'un monde à l'agonie, en même temps que fantômes conscients d'être mort-nés. Nous étions fossoyeurs d'un monde à l'agonie. Nous nous étions mutants, nous étions androgynes. Aujourd'hui la tempête a lynché mes copains et je suis le dernier à rater mon suicide. À rater mon suicide. Mais je veux vivre encore plus ivre de cramé. Je veux ronger le mal jusque dans ses recoins. J'ai traîné mes 20 siècles d'inutilité. Je n'ai plus rien à perdre, mais j'en veux pour ma fin. J'en veux pour ma fin. Thank you.
Nous écoutions « Exil sur Planète Fantôme », interprété par Hubert Félix Thiéfaine.
Vous écoutez Radio Libertaire sur 89.4, la radio de la Fédération anarchiste et une émission qui déménage les sciences du vivant.
Alors Thierry, on a vu que tu soulignais l'importance de la sexualité et les stratégies de reproduction dans la formation d'espèces nouvelles.
Eh oui.
Oui, c'est fondamental comme sujet chez toi, mais cela ne paraît pas contradictoire avec la synthèse dite moderne, tandis que les partisans de l'ES protestent sur l'absence de plein de nouvelles découvertes qu'il faudrait aussi intégrer. Et pourtant, néo-darwiniens et réformateurs de l'ES continuent à s'opposer.
En effet, si on réfléchit, finalement, l'ES ne consiste qu'en une extension de la théorie moderne. C'est donc par contradictoire. Bizarrement, c'est pas difficile de dire que les néo-darwiniens, qu'on n'a pas besoin d'une théorie nouvelle, puisqu'il suffirait d'intégrer ces phénomènes marginaux. De la même manière, pour ceux de l'ES, c'est pas contradictoire non plus de dire qu'il faut étendre la théorie pour y placer tous ces processus nouveaux qui ont été identifiés. On voit ici que la question essentielle n'est pas la remise en cause des découvertes nouvelles, mais que la résistance concerne bien plutôt quelle valeur on peut attribuer à tous ces processus de l'histoire évolutive. C'est-à-dire que les découvertes nouvelles perturbent le cadre de l'ancienne synthèse, les perturbe-t-il assez pour la remettre en cause ou pas? Voilà, c'est ça l'enjeu. Et évidemment, ce n'était pas un enjeu si facile que ça à déterminer.
C'est-à-dire qu'en fait, il faut savoir si on ajoute pêle-mêle les découvertes nouvelles ou, pour les ajouter, il faut carrément changer le cadre théorique?
Oui, c'est tout à fait ça l'enjeu. Alors, c'est pourquoi faudrait-il changer un paradigme s'il paraît incapable d'incorporer toutes les nouvelles recherches?
En effet, Thierry, pourquoi?
Pourquoi? Parce que nous avons atteint la limite explicative du paradigme néo-darwinien. Loin de s'intégrer finalement à une vision génétique et monolithique d'une concurrence pour la survie, la plupart des découvertes modernes montrent au contraire qu'il y a d'autres mécanismes qui sont beaucoup plus présents, notamment au niveau moléculaire qui était inconnu auparavant. Par exemple, l'endosymbiose consiste dans l'association d'un organisme avec un autre.
Et c'est aussi le cas de la sexualité.
Oui, s'il y en a. Toutes les associations sont très importantes en biologie. Et le seul intérêt de la reproduction sexuelle, c'est justement d'associer deux génomes différents au cours d'une recombinaison. C'est-à-dire qu'ici, en dépit du conflit sexuel et de la différence, les organismes vont bien privilégier la relation à la concurrence. La relation sexuelle est même extraordinairement importante puisque c'est elle qui va déterminer la reproduction et la suite des événements. On peut même dire qu'en dépit de la concurrence, les animaux, les espèces vont privilégier la relation. Alors j'avais proposé au début des années 2000 une théorie très complète de la sexualité, car toutes les observations suggèrent que la sexualité provient en quelque sorte d'une sorte d'échange de gènes horizontaux. Grâce à la sensibilité cellulaire, les protocellules ont pu discriminer ce qu'elles mangeaient et celles des protocellules qui deviendraient leurs partenaires. La sexualité démontre que l'évolution est étroitement dépendante de ces interactions associatives qui vont même tellement se spécialiser que tout le groupe des eucaryotes, hein, c'est-à-dire les champignons, les plantes, les animaux et les protistes, vont dépendre de la reproduction sexuelle. En fait, il faut souligner l'importance des interactions que les organismes ont les uns avec les autres. Alors que les néo-darwiniens n'ont gardé qu'une seule interaction, qui est vue comme complètement négative, la concurrence, les autres interactions sont pourtant très importantes. Mes travaux suggèrent que la sexualité est probablement l'une des toutes premières interactions spécialisées, et cette interaction, elle agit directement sur les génomes, à partir de deux parents, va se former un descendant totalement différent et totalement nouveau.
Mais est-ce qu'il existe d'autres associations dans la nature où des organismes se mettraient aussi ensemble?
Bien entendu, s'il y en a. Car dans la foulée de l'innovation sexuelle des individus cellulaires produits, se sont aussi associés pour former par exemple des tissus, pour former des organes. Les corps, les plantes, les champignons sont des assemblages de millions de cellules qui se sont associées en organes. Il y a donc bien là un principe particulier qui fait qu'il y a une attraction entre ces corps et pas seulement une concurrence. Les corps sont aussi des colonies d'organes différents, comme le suggère la formation des siphonophores, par exemple, on en avait déjà parlé. Probablement, en même temps que se mettait en place le métabolisme du collagène, les tissus ont pu se mettre en place. On a vu donc se former des êtres vivants pluricellulaires, sans compter l'importance des endosymbioses intracellulaires, comme cela est, tout cela démontre en fait à quel point les interactions associatives ont une importance capitale en évolution.
Oui, d'ailleurs, tu développes aussi bien l'idée d'une biologie évolutive.
En fait, l'interaction associative est ambivalente, plurielle. Elle peut modifier les gènes, mais elle a aussi des implications extra-génétiques. Car il ne faut pas oublier qu'un organisme n'a jamais évolué seul. Et il faut considérer ce que j'appelle, moi, la force structurante des interactions.
Oui, c'est un mot complexe tel que tu l'écris, mais...
Ça veut dire que chaque espèce interréagit avec toutes les autres pour constituer une sorte de château de cartes évolutif, dans lequel d'ailleurs il y aurait une certaine asymétrie. La force structurante des interactions est bien connue en chimie, en physique ou encore en écologie. Les interactions fabriquent des forces qui maintiennent les équilibres à l'état un peu instable et précaire entre les organismes, un peu à la manière dont fonctionnent par exemple les planètes entre elles. Pas besoin d'invoquer des processus spéciaux. L'évolution est juste l'histoire millénaire de ces interactions, dont les plus instables sont compensées, par exemple par la reproduction. Les herbivores mangent des plantes, disséminent des graines et favorisent leur reproduction. Quant aux interrelations les plus stables, ce sont carrément devenues des symbioses, comme avec les animaux nettoyeurs, les communautés de plantes, de coraux.
Comme l'exemple du poisson clown dans son anémone. Mais comment se forment-elles ces relations symbiotiques et quelle importance évolutive ont-elles ?
C'est précisément là l'enjeu. En étudiant leur constitution, la constitution de ces associations, on s'aperçoit que l'assemblage entre les espèces est une force constante et que le processus évolutif d'assemblage est à l'origine de tous les eucaryotes, plantes, animaux, champignons. La diversité de ces interactions structure tout cela. Si c'est diversifié, on va avoir des systèmes organiques, des tissus, et bien sûr, tout ça jusqu'au niveau de l'écosystème. Et toutes ces interactions, c'est la sexualité qui nous livre une importance capitale en démontrant comment elles peuvent agir aussi bien au niveau génétique, par exemple ça va à partir de choix sexuels qui sont orientés ou par des hybridations, qu'à des niveaux écosystémiques. C'est ça que j'appelle l'écologie évolutive. C'est-à-dire reconnaître l'évolution comme une histoire qui s'organise à travers des événements relationnels entre les êtres vivants. L'histoire s'est faite des relations entre les individus. Et il n'y a pas besoin d'en avoir conscience pour démontrer l'importance de la force structurante des interactions. On pourrait penser que c'est un peu la même chose que l'auto-organisation, mais pas du tout. Là, ça vient bien des individus eux-mêmes qui vont se structurer par ces événements relationnels. De même que les abeilles sont indispensables à la pollinisation ou les vers de terre sont indispensables, comme les éléphants, d'ailleurs au recyclage des forêts, l'histoire évolutive a structuré des ensembles efficaces qui vont vivre d'une manière plus ou moins harmonique.
On est donc loin d'une lutte, struggle for life, une lutte pour la vie. Chaque espèce veut simplement vivre en paix, alors avec les autres.
En quelque sorte.
C'est peut-être un peu simpliste, mais...
Mais c'est un peu ça. Les conflits ne sont pas inexistants, ils sont présents. Mais comme chacun doit résoudre ses conflits depuis la première rencontre jusqu'à la thématique d'interaction de la prédation ou de concurrence, l'ensemble de ces relations construit des associations entre la flore et la faune qui sont des associations originales. Par exemple, il y a eu à la fin du Crétacé un écosystème nouveau qui a relié les plantes à fleurs, les insectes, la formation des oiseaux et celle des mammifères. Cet ensemble, qu'on peut appeler une sorte de château de cartes, avec des valeurs différentes pour chacune des cartes, parce que ce sont des événements qui sont asymétriques, a suivi le système des dinosaures qui était associé lui, aux fougères arborescentes et qui est tombé d'un seul coup après plein de petits traumatismes probablement. Ce sont donc des milliards d'interactions subtiles et précaires qui fonctionnent en un réseau, comme les réseaux de neurones par exemple. Et chaque perturbation peut perturber la fonctionnalité de l'ensemble jusqu'à entraîner la disparition de toute une faune ou de toute une flore. On comprend par conséquent qu'avec mon écologie évolutive, je rétablis le lien entre la macroévolution et la microévolution, et qu'il n'est pas besoin de chercher un mécanisme évolutif qui serait univoque et universel. L'ensemble des interactions pesant sur toutes les autres fait l'histoire évolutive où chacun dépend des autres et les autres de chacun.
Du coup, quelle relation y a-t-il entre les propositions de l'ES et ton concept d'écologie évolutive, puisque toutes les deux se débarrassent du néo-darwinisme ?
Oui, Siona, on s'aperçoit bien que le néo-darwinisme, dans sa phase orthodoxe, est devenu caduc. Mais l'ES demandait juste d'ajouter des découvertes nouvelles, les transferts horizontaux de gènes, les veaux développements, la sympatrie, les événements non darwiniens. Avec l'écologie évolutive, je pense, personnellement bien sûr, que nous avons au contraire une théorie globale qui est parfaitement matérialiste, qui est fondée sur des réalités biologiques qu'on appelle les interrelations, et qui comprennent l'évolution donc pas comme un processus, mais comme une histoire dans laquelle en effet les événements non darwiniens sont primordiaux. Les premiers êtres vivants s'assemblent à travers des processus de combinaison génétique, comme le transfert horizontal de gènes, ou encore la recombinaison sexuelle. Et puis, les pressions de l'environnement vont entrer dans ces assemblages de cellules, il va y avoir des spécialisations d'individus, ça va former des organes, des colonies d'organes différents, qui vont former de nouveaux individus plus complexes. Et toujours sous l'effet de ces interrelations, on va avoir des écologies qui sont toujours dépendantes d'une seule chose, la force structurante de ces interactions. On voit que cette écologie est libertaire.
Libertaire, dans une émission Radio Libertaire.
Voilà, parce qu'elle part par en bas. Elle contient une explication non exhaustive. Il ne s'agit pas d'une auto-organisation venue du ciel ou une auto-organisation qui serait supérieure aux individus eux-mêmes. Au contraire, tout dépend de chaque individu. Et si un individu disparaît, eh bien, l'ensemble se casse. Mais cette écologie est très complète. Et elle devrait déclencher normalement l'enthousiasme de jeunes chercheurs qui pourront enfin se débarrasser du carcan de tout le néo-darwinisme.
Sin razón ninguna. Qué dolor, porque te fuiste de mí. Qué dolor, ya no volverás a mí. Qué dolor, porque te fuiste de mí. Qué dolor, ya no volverás a mí.
C'était la fanfare Chiocarlia qui nous entraînait dans Che dolor. Continuons, Thierry.
Nous voilà au terme de cette émission. Espérant se sortir du carcan étroit de la sélection naturelle, les nombreux chercheurs comme Piglucci, Lalande ou encore Kunin ont proposé l'EES ou Extended Evolutionary Synthesis comme une alternative au néo-darwinisme. Il s'agissait au départ d'incorporer nombre d'événements non darwiniens qu'avaient révélés les découvertes modernes et que l'opposition des néo-darwiniens voulait refouler dans des problématiques mineures. Mais très vite, ont compris le besoin d'établir une relation entre la micro-évolution des espèces et des épisodes physiques comme la Terre boule de neige, la comète d'Alvarez ou les changements climatiques, fabriquant une macro-évolution. Car la distinction entre ces processus n'en est pas une. Elle résulte juste de la perte de pouvoir explicatif du néo-darwinisme. Or, si l'EES trouve encore autant de résistance en proposant juste une extension de la théorie synthétique, juste une petite réforme, c'est bien parce que les nouveaux événements non-darwiniens découverts depuis les transferts horizontaux de gènes jusqu'à l'hybridation et la construction de niches apportent une contribution beaucoup plus lamarckienne que darwiniste. Mais en outre, en révélant comment la sexualité s'est mise en place, j'ai pu souligner l'importance d'un mécanisme évolutif passé sous silence. La force structurante des interactions. Non seulement les interactions agissent depuis nos cellules jusqu'aux écosystèmes, comme à travers un réseau de neurones, mais elles font des assemblages floristiques et faunistiques parfaitement originaux qui se succèdent, établissant une relation très forte entre des épisodes macro et micro-évolutifs. En partant du bas, à la fois les premières interactions biochimiques, mais aussi des grandes réactions planétaires, s'est établie une histoire des êtres vivants toujours en relation les uns avec les autres et parfois si dépendants que lorsque quelques-unes de ces interactions sont altérées, c'est l'ensemble qui s'écroule à la manière d'un château de cartes. L'écologie évolutive souligne que l'évolution est une histoire faite de toutes les interrelations entre les organismes et leur environnement. Partant de chacun, l'évolution va vers tous, et c'est bien une écologie libertaire qui doit émerger de ces schémas alter-darwiniens. Tout n'est pas encore écrit, bien au contraire, mais ce bouleversement des perspectives biologiques devrait enthousiasmer tous ceux qui comprennent que c'est seulement en sortant du carcan orthodoxe de la biologie néo-darwiniste que nous pourrons commencer à comprendre le monde et tous les êtres vivants.
Ainsi se termine notre émission de Science en Liberté. Auditrices, auditeurs intrépides, vous pouvez toujours nous contacter en écrivant sur l'email sciencelibre@gmx.fr, science libre au singulier. Nous aurons le plaisir de vous retrouver tous les seconds lundis de chaque mois à 18h sur 89.4 Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, pour décortiquer la biologie et bousculer toutes les idéologies qui l'accompagnent. Ainsi se finit cette émission de Science en Liberté, animée par Thierry Laudet, avec la complicité de Siona et de Monique à Paris. La musique d'introduction était d'Hicham Chahedi et nous allons conclure sur Re-Evolution, interprétée par New Generation et par Black Rain.
I'm gonna tell you a story about a fight, about our lives.